quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la consommation dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, la consommation des produits exotiques en France au XVIIe, XVIIIe siècle. Après avoir lundi évoqué les relations tendues entre locataires et propriétaires, mais aussi la table des pauvres au XIXe siècle, puis mardi nous être approché de la consommation d'une famille anonyme pendant les Trente Glorieuses dans le documentaire que vous pouvez réécouter sur le site internet de France Culture, un documentaire signé Amaury Chardot et Séverine Cassard, et avoir ensuite hier défini ce qu'avait été la révolution de la consommation au tout début du XXe siècle, nous partons ce matin au loin, là où les navires marchands allaient chercher pour les ramener en Europe le thé, le café, le tissu qu'on appelait les indiennes ou encore, plus simplement, le sucre. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Séverine Yattard qui a préparé cette émission avec nous et nos quatre invités, Natacha Coquery, Maude Villeray, Eugénie Margoline-Plot et Philippe Mézy. Bonjour Séverine Yattard. Et merci d'être avec nous pour ce débat de conclusion autour de notre semaine sur la consommation. Et bonjour à vous, Natacha Coquery.
Bonjour.
Et bonjour à Nantes, à Eugénie Margoline-Plot et à Maude Villeray qui sont avec nous, ainsi qu'à Philippe Mézy qui se trouve dans les studios de Radio France à Bordeaux. Bonjour à tous les trois. Donc nous allons nous plonger dans le XVIIIe siècle, disons l'époque moderne en général, et les révolutions de la consommation qui sont liées en particulier à l'arrivée de nouveaux produits sur le marché. Alors peut-être avec vous tout de suite, Natacha Coquery, que change la découverte de nouveaux horizons, la découverte de l'Amérique ou la découverte de l'Afrique plus profondément, ainsi que des territoires asiatiques par les Européens quand ils se propulsent hors d'Europe dans ce moment qu'on a appelé longtemps les grandes découvertes. Qu'est-ce que ça change au bout du compte, Natacha Coquery?
Je parlerai ici strictement du point de vue de l'histoire de la consommation.
Mais c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande, c'est de ce qu'on vous demande.
Parce que ça change énormément, énormément de choses. Donc je prends les révolutions que ça implique par vraiment un tout petit bout. Je voudrais pas que les auditeurs pensent qu'il n'y ait que l'histoire de la consommation qui soit en jeu, avec entre autres la découverte de l'Afrique et la traite et le reste. Donc si je prends strictement du point de vue de l'arrivée de nouveaux produits en Europe, qui à nouveau là aussi je pourrais m'interroger en disant c'est un point de vue eurocentré. Alors vous savez qu'avec toutes les discussions, le renouvellement historiographique
de l'histoire globale, l'histoire mondiale et l'histoire connectée.
C'est déjà un point de vue sur lequel il faudrait s'interroger, mais on n'a pas le temps. Donc je reprends donc de l'irruption de ces nouveaux produits. Alors, il y a du nouveau et du moins nouveau, puisque là encore, il ne faudrait pas croire que les 17e, fin 15e jusqu'au 18e soient un changement total, puisque la route de la soie, les épices, le poivre, cannelle, enfin tous ces produits-là étaient connus et faisaient partie de ces circulations qui ont existé bien avant la découverte par les Européens de ces territoires lointains. Ceci étant, il est vrai que sont arrivés en Europe des produits qui ont émerveillé les Européens, notamment, alors je vais en citer quelques-uns, mais notamment la porcelaine, les indiennes, pour prendre des produits qui sont très différents, mais qui ont réellement émerveillé,
ébloui.
Un pouvoir d'attraction, mais qu'on explique comment, alors du coup
Alors qu'on explique de différentes façons. Le choc était assez violent, parce que prenez la porcelaine, c'est la première fois que l'on pouvait utiliser un objet raffiné, mais qui pouvait se casser, puisque auparavant, donc ça impliquait se casser, d'où un pouvoir de renouvellement. Mmh. Et ça, c'était très neuf, puisqu'auparavant, on buvait dans des ustensiles qui ne se cassaient pas, qui pouvaient peut-être se gondoler, mais qui ne se cassaient pas. Donc déjà, ça, c'est très neuf. Et puis l'autre, c'est le chatoiement des couleurs. Mmh. Et là, je pense aux textiles, aux soieries, aux indiennes. Donc fabriquée tout d'abord en Inde avant que l'Angleterre ou la France ou la Suisse ne fabriquent eux-mêmes ces produits-là pour éviter de trop hautes importations. Mais donc c'est ça, c'est le chatoiement des couleurs, c'est la palette absolument inusitée. Et puis encore un troisième type de produit, ce sont tout ce qu'on a pu appeler les boissons. Les boissons coloniales, mais qui au départ n'étaient pas, non pas là aussi, il faut faire attention au temps, qui n'ont pas été tout de suite adoptées.
Bien sûr.
La nouveauté n'a pas impliqué immédiatement une adoption par les consommateurs européens. Mais au début, c'était parfois, d'abord des produits très très luxueux, puis ensuite considérés comme des médicaments, comme le thé ou le café, avant d'être popularisés.
En tous les cas, Natacha Cocri, Maud Villeray, Eugélie Gorlin-Plot ou Philippe Mézier, comment cette histoire de la consommation se révolutionne d'un point de vue peut-être historiographique, c'est-à-dire sur quoi on a travaillé auparavant, avant la Global History, et sur quels éléments on s'est attaché pour justement essayer d'évaluer cette consommation diffusion de nouveaux produits. Qu'est-ce qui a changé? Alors après, chacune pourront nous dire selon leur spécialité, hein, parce que je pense qu'il y a une économie parallèle, des modes de consommation qui se démocratisent, mais pas tant que ça non plus, avec des systèmes de distinction qui persévère. Et vous en parlez un petit peu dans votre article, justement, Natacha Cocri, de cet changement un petit peu historique.
Je vais juste commencer, mais je donnerai tout de suite la parole à mes collègues, puisque chacun, et ça tombe très bien pour l'émission, chacun, on a étudié des sources un petit peu différentes. Donc, de mon côté, j'ai étudié les livres de comptes des boutiquiers. Donc, je suis partie du point de vue vraiment des stocks qui était dans la boutique. Ça a été mon point de vue.
Voilà, et à partir de ces livres de comptes, vous avez pu analyser plus finement, par exemple, la question de la production, de la consommation, de qui étaient les consommateurs.
J'ai pu étudier quels étaient les produits vendus, déjà, que vendait le boutiquier, et puis aussi, donc, quels étaient ses clients, puisque dans son livre de comptes, quand ils sont bien faits, il indique quel est le client, son adresse, sa qualité, etc. Et puis, j'ai pu étudier aussi tout ce qui est moyen de crédit, mais ça, c'est un autre sujet. Et les sommes en jeu que cela représentait.
Et donc, c'est une petite révolution historiographique à laquelle on assiste quand on s'intéresse justement à cette consommation nouvelle ou ce renouveau de la consommation. On sait que, évidemment, des historiens aussi célèbres que Fernand Braudel ou d'autres, dans leur vision de l'économie mondialisée telle qu'ils l'avaient décrite dans les années 70, s'étaient déjà intéressés à ces questions-là. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a changé? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de regarder cette histoire de la consommation de produits exotiques à l'époque moderne de façon différente? Philippe Mézier, par exemple.
Fernand Braudel s'était beaucoup intéressé au commerce de ces produits, à leur circulation. Et aujourd'hui, l'approche des historiens des consommations est plutôt de s'intéresser à la profondeur sociale du marché, d'essayer de voir jusqu'à quel niveau social on va retrouver ces produits, leur consommation, leurs usages.
Et c'est donc beaucoup plus vaste, pourrait-on dire, que ce que faisaient justement les historiens de l'économie mondiale, telle qu'était Fernand Braudel et son école.
Alors là, on a plutôt une inversion de perspective, c'est-à-dire que là, on va plutôt partir pour mesurer la profondeur sociale du marché d'une échelle locale, en étudiant localement la consommation à travers des sources un petit peu différentes, comme les inventaires après décès.
Oui, c'est-à-dire que c'est un profond renouvellement du regard que l'on porte sur la société dans sa façon de consommer ce type de produit. On a imaginé très vite et très longtemps qu'effectivement ça ne touchait que des classes supérieures de la société. Et ce qu'on découvre avec vos travaux aux uns et aux autres, c'est que ça pénètre plus profondément dans le corps social, Eugénie Margolin-Plot, par exemple, sur les Indiennes.
Effectivement, mes travaux ont permis de montrer que non seulement il y avait des catégories sociales plus touchées par l'exotisme que ce qu'on pensait, mais également qu'il n'y avait pas que les grandes compagnies ou les grands négociants à véhiculer ces nouvelles marchandises, que finalement ces marchandises s'étaient démocratisées dans des milieux plus populaires, qui permettaient donc à des classes sociales moyennes de se procurer toutes ces nouveautés.
Alors, c'est à partir de quel moment, parce que là, on n'a pas encore cité de date, que vous pouvez noter justement ce titre de démocratisation? On est en plein cœur du XVIIIe siècle, un peu avant. Qu'est-ce qui, justement, nous permet d'avoir, pour l'auditeur qui nous écouterait et qui s'intéresse à ces questions, d'avoir quelques bornes chronologiques qui lui permettent de se repérer dans cette arrivée massive de produits nouveaux sur le territoire européen?
Donc sur les produits, on va dire, de consommation alimentaire, comme les boissons exotiques, très clairement, je pense qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, on a une accélération de la diffusion de ces produits. Ça se fait progressivement, mais la fin du XVIIe siècle marque assurément une étape importante.
Mmh. Eugénie Margoline Plot, à propos des indiennes, des tissus.
Alors, ce n'est pas le cas pour les indiennes. Puisque l'indienne est donc une toile de coton colorée dont la fabrication, le port et l'usage est prohibé sur le territoire français de 1686 à 1759.
Ah oui, donc ça c'est clair.
Donc l'essor, à proprement parler, de ce produit en particulier, ne va véritablement s'imposer qu'à partir donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Et Maud Villeray, vous qui travaillez sur le sucre?
Oui, alors moi j'ai pu étudier notamment à partir d'un large échantillon d'inventaire après décès, justement, essayer de mesurer la diffusion sociale de ce nouveau produit. Et juste pour donner un ordre d'idée, vers 1680, je me suis rendu compte que à peine 10% des intérieurs ligériens, je me suis essentiellement intéressée à la province, Nantes, Tours, les campagnes également, donc à peine 10% de ces intérieurs étaient équipés en vaisselle liée à la consommation de produits coloniaux. Et toujours pour donner un ordre d'idée, un siècle plus tard, là on voit bien la progression. Vers 1780, on est désormais à près de 4 intérieurs sur 10 qui sont désormais équipés et qui donc connaissent, consomment peut-être régulièrement ces boissons exotiques.
Séverine Yatta.
Bah vous évoquiez, Eugénie Margoline Plot, la question de la législation, puisqu'il y a une interdiction, par exemple, sur les indiennes. On peut justement un petit peu, et vous aussi, sur la question du sucre, Maud Villeray, la question de l'État, l'intervention de l'État, justement, dans la gestion, la diffusion, le raffinage, par exemple, du sucre, à Nantes, puis à Orléans. Voilà, quel est aussi le rôle de l'État dans l'évolution, la diffusion de cette consommation de produits exotique. Alors, et c'est pas pour chaque produit, les législations évidemment sont un peu différentes aussi.
Alors, dans le cas du sucre, l'État a développé assez tardivement l'industrie du raffinage en métropole. Vers les années 1680, c'est vraiment le développement du raffinage. Et l'État a joué un rôle fondamental en encourageant notamment l'arrivée d'ouvriers qualifiés étrangers pour lancer ces manufactures et pour développer le commerce du sucre raffiné. Et à la fin du XVIIIe siècle, cette politique a été relativement efficace, puisque le royaume qui importait du sucre raffiné de l'étranger, notamment de Hollande, qui était réputé produire le plus beau des sucres, le sucre royal, très blanc, et bien à la fin du siècle, le royaume de France est désormais autosuffisant et n'importe quasiment plus de sucre raffiné à l'étranger. Donc l'État a vraiment joué un rôle déterminant dans la diffusion, dans la consommation de ces nouveaux produits.
Et l'État, évidemment, s'y intéresse parce qu'il y a des taxes à percevoir, j'imagine, parce qu'il y a aussi une sorte de patriotisme économique, comme on l'a dit récemment à d'autres moments de notre histoire récente. Eugénie Margoline Plot, c'est aussi une des raisons pour laquelle on interdit ces indiennes, et pour pouvoir rattraper une sorte de retard technique ou technologique qui permettra ensuite à la France de pouvoir concurrencer la fabrication de ces textiles, ou pas du tout?
Oui, effectivement, dans un premier temps, les indiennes ont été prohibées sur le territoire parce qu'elles concurrençaient les industries traditionnelles françaises, donc les industries de soie ou de lin. Elles sont restées prohibées parce que l'État français, nous n'avions pas le savoir-faire,
oui, c'est ça,
pour copier correctement donc ces indiennes.
Vous voulez dire, avant qu'on se plaigne des autres pays qui nous copient nos produits, on a tenté nous-mêmes de les copier, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire
bien
à cette époque-là?
Effectivement, oui, on a tenté effectivement de copier. Les copies, dans un premier temps, étaient d'une qualité assez médiocre. Et il a fallu quand même attendre la moitié du 18e. Et véritablement, l'essor de l'indiennerie française ne s'est faite donc qu'à partir des années 70.
Séverine Yatta.
Mais alors, ce que vous montrez, Jenny Margolin-Plot, c'est enfin avec le cas particulier de Lorient, hein, qui est le siège de la compagnie des Indes, en fait, c'est qu'il va y avoir un commerce illicite. Alors, faudrait, voilà, si vous pouviez peut-être nous expliquer, qui passe par les marins.
Ce que j'ai étudié, moi, en particulier, c'est l'introduction donc de cotonnades asiatiques sur le territoire français via les marins, donc travaillant pour la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes est une compagnie maritime à monopole. Elle seule détient donc le droit de commerce avec l'Asie. Et la très grande majorité de ces armements se font depuis le port de Lorient. Mmh. Ces équipages sont essentiellement bretons. Et il se trouve que, traditionnellement, la Compagnie des Indes offrait à ses membres d'équipage, qu'ils soient officiers, matelots ou simples mousses, la possibilité de commercer pour leur propre compte. Donc c'est
dans la limite, hein, il y avait quand même un
an. Voilà, dans la limite d'un certain seuil à ne pas dépasser, mais seuil qui n'a jamais été défini dans un règlement.
C'était raisonnable, dirons-nous. C'était une façon de faire de la perruque, comme on disait parfois dans les usines du 19e siècle. C'était d'avoir une part de son travail qui vous revienne directement sans passer par le patron ou le patronat, en l'occurrence.
C'est ça. Et la compagnie, donc, autorisait ses employés à rapporter quelques pièces de cotonnade blanche, leur interdisait donc les cotonnades colorées, et naturellement, les marins en ont fait un petit peu qu'à leur tête, et ont ramené ce qu'ils désiraient, donc à la fois des cotons colorés, mais il est vrai, essentiellement quand même des cotonnades, et le mouchoir arrivant en tête.
Largement en tête. Philippe Mézier, tout cela s'inscrit aussi, et je poserai la question aussi à Natacha Cochery, dans un contexte de concurrence internationale assez sévère. La France n'est pas seule, évidemment, à courir les mers, à aller récupérer ce type de produits dans le monde entier, mais aussi elle a une sorte de devoir d'être à la hauteur, puisque souvent on considère dans ces années de l'époque moderne, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, qu'il y a là un endroit où on lance les modes, où on lance le bon goût, et qu'au bout du compte, il faut pouvoir être à la hauteur. Donc c'est dans ce contexte de concurrence que l'arrivée de ces nouveaux produits, la propagation de ces nouveaux produits se fait aussi, Philippe Mézier.
Oui, tout à fait. Il s'agit d'affirmer aussi pour les élites à l'échelle internationale, finalement, leur statut par la consommation de ces produits exotiques. Et la France, au XVIIIe siècle, qui se veut un modèle culinaire dans toute l'Europe, évidemment, va mettre en avant ses consommations de café ou d'autres produits exotiques pour se distinguer. Mais la concurrence, c'est aussi au niveau du commerce de ces produits, et Bordeaux, en particulier à l'intérieur du Royaume de France, redistribue énormément de ces produits exotiques vers le reste de l'Europe du Nord, la Baltique en particulier, et il faut penser que ce goût de l'exotisme va se retrouver chez les élites polonaises, suédoises, etc.
Oui, vous avez travaillé sur la Pologne en particulier, et vous y montrez effectivement qu'il y a, d'une certaine façon, la volonté de ne pas être en retard pour ces élites polonaises, de se faire un peu moquer parfois par les élites françaises qu'elles peuvent croiser sur leur passage ou qui peuvent venir en Pologne, et qu'au bout du compte, il y a un rattrapage rapide un peu partout en Europe pour pouvoir justement suivre cette mode et cette mode de consommation, pourrait-on dire, Philippe Mézier.
Oui, il faut absolument appartenir à une sorte de civilisation nobiliaire à l'échelle européenne, et donc imiter ce qui se fait du côté de la France, du côté de l'Angleterre. Et donc les élites nobiliaires polonaises vont adopter rapidement la consommation de sucre, hein, qui va arriver par la Baltique, par les ports de Dantzig ou de Stettin. Et on a donc une volonté de se rapprocher de l'Occident pour ces élites polonaises qui sont aussi proches de l'Orient dans une certaine mesure, mais le modèle occidental est très copié par ces élites polonaises.
Natacha Cochery.
Oui, je vais peut-être mettre l'accent tout d'abord sur l'éternelle rivalité, jalouserie, compétition entre la France et l'Angleterre qui continue.
Vous croyez ?
Et qui est... que moi j'ai observé à partir des guides de voyage, et c'est très intéressant, les guides de voyage, puisqu'ils reflètent ces sentiments-là à leur façon dans les guides anglais et notamment londoniens, pour aller vite. Il y a cette fascination pour Paris, mais dans les guides français et parisiens, idem, cette fascination pour Londres. Et dans la, à la fin du XVIIIe siècle, dans les guides de voyage que j'ai pu étudier sur Paris, cette fois, on sent un raidissement. Là, on est dans les années 1780. Et c'est vrai que autant on est revenu d'un point de vue historiographique sur cette histoire du déclin ou du retard français par rapport à l'Angleterre. Mmh. Bon, ça a été beaucoup rediscuté. Ceci étant, il est vrai que dans les années 80...
Du 18e siècle.
La France connaît un ralentissement, on va dire. Et ce ralentissement économique se ressent très fort dans les guides, où il y a sans cesse une volonté de montrer l'excellence des produits français, y compris dans les domaines où l'Angleterre a pris le leadership en cette fin du 18e siècle, dans des domaines où la France, jusqu'alors, était plutôt reconnue pour son excellence. Et c'est très intéressant d'étudier ce nationalisme économique qui se développe. Et je voudrais juste aussi rappeler que la plupart des guerres du XVIIIe siècle se sont déroulées, certes, sur le terrain continental en Europe, mais ont toujours eu un versant maritime où s'affrontent l'Angleterre et la France, justement à propos des colonies, Saint-Domingue, enfin les Antilles en particulier, le Canada, etc. Donc c'est quelque chose de très fort, sachant que, mais là Maud pourra en parler mieux que moi, que le sucre est devenu vraiment un produit économique très très important.
On lui donnera la parole dans un instant, Maud Villeray, qui est avec nous à Nantes, mais pour l'instant on écoute justement, puisque vous évoquez l'Angleterre, un anonyme du XVIIe siècle dans une musique qui est de Michael East. Michael East, donc un compositeur du milieu du XVIIe siècle, Metaphysical Tobacco, pour évoquer justement cette consommation exotique. Maud Villeray, vous êtes spécialiste justement de la consommation du sucre. Le goût de l'or blanc, c'est le titre de votre thèse que vous avez soutenue en octobre dernier sous la direction de Natacha Cochery. Alors justement, Maud Villeray, on évoquait non seulement la question de la consommation, mais aussi de la guerre, pourrait-on dire, pour la perception, la récupération de ces produits exotiques, et en particulier pour le sucre. Et on sait évidemment l'importance qu'a tenu Saint-Domingue dans toutes les perturbations du XVIIIe et du XIXe siècle, avec évidemment la Révolution française, mais également plus tard le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier, justement parce que c'était la grande terre de production du sucre pour la France, en l'occurrence, Maud Villeray.
Oui, absolument. Alors, la France et l'Angleterre se sont livrées, l'expression est connue, une véritable guerre du sucre pour conquérir et surtout pour maintenir leur domination sur ces îles et sur ces plantations. Saint-Domingue apparaît vraiment comme la perle des Antilles, puisque c'est la première productrice de sucre pour la France et qu'elle devance nettement la Jamaïque pour l'Angleterre. Et ces deux pays se sont lancés aussi une guerre fiscale tout au long du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe, ce n'est plus la Hollande, la principale concurrente de la France en ce qui concerne le sucre raffiné, mais c'est bien l'Angleterre, notamment grâce à une politique fiscale très encourageante, très incitative pour les exportations de sucre raffiné anglais, une politique que la France va mettre du temps à mettre en place elle-même. Il faut attendre la fin des années 1780 pour que la France mette en place elle aussi ses incitations fiscales. pour lutter justement contre cette concurrence anglaise.
C'est une concurrence militaire, fiscale, diplomatique qui se joue sur le monde, dans le monde entier entre ces deux puissances en particulier.
On pourrait parler de concurrence totale, c'est vrai, dans le domaine fiscal, dans le domaine guerrier. Je pense aussi à de véritables politiques d'espionnage qui sont menées. Des consuls, des ouvriers sont espionnés, des rapports sont faits sur les méthodes de fabrication anglaises pour essayer de comprendre comment les Anglais parviennent à produire du sucre à si bas coût et parviennent à introduire du sucre anglais dans le Royaume de France.
Un espionnage industriel, donc, c'est ça.
En tout état de cause, allez-y, Maud Villeray, finissez.
Un espionnage industriel. Et justement aussi, on essaye d'imiter la qualité du sucre, puisque la qualité du sucre raffiné français est assez mal reconnue sur les marchés européens. Donc l'État, le Conseil de commerce, essaye de voir ce qui pêche dans la qualité du sucre et essaye d'imiter le sucre anglais.
En tous les cas, vous expliquez bien, Maud Villeray, donc dans la situation nantaise qu'il va y avoir en l'espace entre 1683 et 1688, il y avait 3 raffineries, il y en a 12, qu'il y a donc une spécialisation qui se met en place à Nantes, justement dans le raffinage du sucre, et qui va permettre de faire circuler justement ce produit aussi dans la région, localement.
Oui, absolument. Alors, les négociants nantais vont se lancer dans l'aventure du raffinage. C'est une aventure qui va durer assez peu de temps, puisque très vite, ils vont être dépassés par leurs concurrents orléanais. Orléans, c'est vraiment le principal centre de raffinage sucrier du royaume au XVIIIe siècle.
Parce que c'est le sucre royal, en plus. C'est les sucreries pour la royauté.
Alors, ils se sont fait une spécialité. Ils ont construit toute une réputation autour d'un sucre très blanc, qu'on dit quasiment transparent, et qui est donc appelé le sucre royal, qui aurait été imité à partir de l'exemple hollandais. Ce sont des Hollandais, qui se sont installés à Orléans. On a notamment les familles Van den Berg, et puis à Angers, les familles Van Bredenbeck.
Et qui ont donc, d'une certaine façon, importé un savoir-faire qui n'était pas le savoir-faire français dans cette région-là, et qui se sont donc enrichis avec ce savoir-faire importé, d'une certaine façon, c'est ça ?
Oui, absolument. Alors, ces ouvriers sont rarement venus seuls, ils sont venus accompagnés de plusieurs ouvriers qualifiés. L'origine de leur arrivée est assez mal connue. On en a quelques traces dans des actes notariés qui mentionnent bien que leur arrivée a été encouragée. Et ils ont construit des fortunes considérables, notamment à Orléans, avec des hôtels particuliers, des raffineries qui empiètent littéralement sur tout le tissu urbain. Et sont devenus de véritables notables dans leur ville. Et la plupart étaient des négociants déjà, et des négociants déjà impliqués dans le commerce de produits exotiques.
Alors, Nantes est un grand port, mais Bordeaux en est un autre. Philippe Mézier, est-ce qu'il y a le même type de spécialisation, le même type d'accumulation capitalistique pour pouvoir justement faire de la plus-value sur ces produits exotiques à Bordeaux, Philippe Mézier, dans ces années justement du XVIIIe siècle?
Au XVIIIe siècle, très clairement, la fortune de Bordeaux, hein, qui a une population qui croît très nettement au cours du siècle, s'appuie sur ce commerce du sucre, de l'indigo, du café. Et donc on a un milieu négociant extrêmement riche à Bordeaux, qui vient d'horizons divers. On a des négociants d'origine irlandaise, des négociants d'origine ambourgeoise. Et donc dans ce milieu cosmopolite, on a effectivement une force économique qui favorise le commerce de ces produits exotiques, à la fois la redistribution dans le reste de l'Europe, mais aussi la pénétration à l'intérieur du royaume, notamment grâce au fleuve, la Garonne par exemple, à l'intérieur du sud-ouest.
Et c'est-à-dire que vous avez des marchés, vous avez repéré des marchés pour ces produits exotiques, comme ça a été fait pour Maud Villeray à propos du sucre, qui pénètrent profondément dans le territoire, qui vont beaucoup plus loin que là où on pensait, en particulier dans les niveaux urbains, dans des petites villes, on peut trouver justement certains de ces produits exotiques beaucoup plus facilement que quelques années ou quelques décennies plus tôt, c'est cela, Philippe Mézier ?
Oui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, très clairement, en ce qui concerne le sud-ouest de la France, dans des petites villes ou dans des villes moyennes comme Agen, comme Libourne ou Périgueux, on a du sucre qui est disponible, du café, et c'est notamment le rôle essentiel qui est joué par les épiciers. Les marchands épiciers du XVIIIe siècle, installés à Bordeaux, avec des relais dans ces villes, vont assurer la distribution de ce type de produit qui devient accessible ainsi à une plus large partie de la population très clairement.
Donc d'un produit de luxe, et là c'est justement ce que vous étudiez chacun, c'est comment on en arrive aussi à des produits de demi-luxe. Alors dans la boutique, il y a le confiseur aussi, Maud Villeray, que vous étudiez, qui fait à la fois des produits de luxe mais aussi de demi-luxe, qui s'adresse donc à une autre catégorie sociale. Natacha Cochery, peut-être sur cette question.
Peut-être juste reprendre le fil du sucre. Parce que il y a eu un article il y a déjà quelques années fait par deux Anglais, Rebecca Spang et Colin Jones, qui ont étudié en particulier cette démocratisation du sucre et le fait que des manifestations, même si c'est un peu anachronique, mais bon, sous la Révolution française, les classes populaires réclamaient justement le sucre. Et comme là, en ce moment, j'étudie le luxe sous la Révolution française, à plusieurs reprises, il y a des discours de Robespierre qui est vraiment très énervé par cette histoire de sucre et qui, en gros, dit « mais les classes populaires s'occupent du sucre, mais au lieu de s'occuper de politique ». Enfin, il y a vraiment plusieurs notations de sa part où il exprime ainsi. Enfin, c'est une façon pour nous historiens de voir jusqu'à quel point le sucre était devenu une consommation courante.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement de s'apercevoir effectivement comment ces produits qui sont au départ des produits de l'élite se répandent profondément dans le territoire et dans les classes sociales, mais aussi ça n'est pas faire du Bourdieu au petit pied que de dire effectivement que l'augmentation de cette consommation dans les classes populaires, par exemple, ou les classes moyennes, fait en sorte qu'il y a aussi plus de distinctions au sommet de l'échelle. J'imagine qu'on va, le sucre n'est pas le même, celui que l'on consomme quand on est très pauvre à Paris à la fin du XVIIIe siècle, que celui qu'on consomme à la cour ou dans les cours aristocratiques européennes. Et ça, c'est la même chose pour tous les autres produits exotiques, en l'occurrence Natacha Cochery.
Alors, là aussi, bon, on a tous des tableaux de François Boucher ou de ces auteurs du XVIIIe siècle. Donc, ce qui va avec le sucre, ce sont tous les récipients qui sont utilisés, donc les soucoupes, le sucrier, la cafetière, la chocolatière, et cela
en porcelaine,
en argent aussi. Et donc il n'y a pas seulement le produit même qui lui, en effet, se démocratise et là sous différentes formes, plus ou moins blancs, mais il y a aussi tous ces objets, cabinets, tablettes, laquais. Donc là c'est le Japon. La Chine, vous voyez, c'est tout un ensemble, tout un univers de distinctions qui se développe pour, en effet, donner de la distinction.
Et des pratiques de table aussi, c'est-à-dire le petit déjeuner, le goûter, le thé, enfin toutes ces...
Oui, mais ce qui est intéressant à étudier, c'est justement les manières de consommer. Et Sébastien Mercier, dans ses tableaux de Paris, parle justement de ces cafés à Paris où désormais le café au lait, c'est le petit déjeuner de l'ouvrier. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il n'empêche que cela reste un produit de distinction selon la manière dont il est.
Alors, si on prend l'exemple du sucre, Maud Villeray, sur lequel vous avez travaillé, et qu'on fait justement cette distinction, comment s'échelonne, pourrait-on dire, la consommation du sucre entre classe populaire et classe aristocratique? Qu'est-ce qu'on consomme tout en bas de l'échelle quand on en consomme? Et qu'est-ce qu'on consomme tout en haut quand on consomme ce sucre? Est-ce que ce sont des sucres de raffinage différents, de qualité différente? Comment fait-on la distinction, justement, entre toutes ces catégories de sucre pour pouvoir ne pas consommer la même chose les uns les autres?
Oui, alors il y a vraiment une différenciation des consommations. Je dirais que pour les catégories populaires qui en consomment, et j'en ai trouvé beaucoup dans les classes moyennes, on peut consommer du sucre qui a été une première fois raffiné aux îles, qu'on appelle le sucre terré. Et puis plus on va monter dans la hiérarchie sociale, plus on va consommer du sucre raffiné, c'est-à-dire très blanc, a fortiori lorsqu'il doit apparaître en morceaux sur les tables. On parlait du rituel de table. Lorsqu'on présente un service en porcelaine importé, on présente généralement le sucre blanc en morceaux. Il s'agit du sucre raffiné qui est consommé par les catégories populaires. Alors ça, on en a des témoignages, notamment dans les correspondances d'épiciers parisiens qui commandent du sucre bien blanc, bien sonore comme les cloches, puisqu'il ne doit pas seulement être bien blanc, mais être aussi bien sec. Il y a des exigences vraiment de qualité de la part de ces épiciers parisiens. Les raffineurs ont différents types de sucre. Alors là, je ne vais pas faire toute la titulature, parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a à peu près 7 catégories de sucre qui vont du plus ou moins raffiné au plus raffiné, le sucre super fin, qui est emballé dans des papiers luxueux, le violet, pour faire ressortir la blancheur de ce sucre.
Et vous montrez aussi dans un article, Maud Villerec, les confiseurs, qui voient bien qu'il y a un marché à prendre à la fois du luxe et du demi-luxe, et voire du consommateur plus modeste, vont s'adapter aussi un peu à ce marché potentiel. Donc il y a les confiseurs de luxe et le confiseur qui va faire des produits plus accessibles à Paris ou en province.
Oui, on retrouve cette même différenciation des consommations à Paris et en province. Les confiseurs ont vraiment saisi finalement ce créneau, cet engouement pour le sucre, et ont participé finalement à la démocratisation, mais aussi on continue à construire cette image de luxe et d'exotisme du sucre, qui, loin de se banaliser finalement, est resté un produit qui flatte l'imaginaire, qui reste un produit luxueux. Et donc ces confiseurs, que ce soit en province ou à Paris, sont capables de proposer à la fois des petites pastilles à faible prix, des dragées non colorées, des dragées blanches, des dragées colorées qui, elles, sont vendues à plus haut prix, et puis de véritables pièces en pastillage, des décors en sucre qui coûtent plusieurs centaines de livres, donc plus d'une année de salaire d'un ouvrier moyen. Et qui évidemment là vise une clientèle bien plus riche, bien plus aisée. Cuando yo me muera, que vaya la gloria, muchacho, le dejo una historia, ¿verdad? Para Venezuela, cuando yo me muera, adiós, pues que vaya.
Traditionnel vénézuélien, donc Barlovento o Tierra del Cacao, pour évoquer le thème dans la fabrique de ce jour, donc autour de la consommation de produits exotiques au XVIIe, XVIIIe siècle. Génie Margoline Plot, on vous avait laissé tout à l'heure sur l'interdiction des indiennes donc par l'État français, pour des raisons, vous nous l'avez expliqué, à la fois techniques et également économiques, mais néanmoins, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, on va les autoriser à nouveau, ces indiennes. Qu'est-ce que ça change à partir du moment où l'État français considère que ces tissus très colorés ont le droit à nouveau d'être cités sur le territoire métropolitain? Est-ce que ça change beaucoup de choses en termes économiques, mais également en termes de mode, j'imagine, Génie Margoline Plot?
Alors, ce qui change, effectivement, ce sont les quantités de toiles qui vont être importées, puisque elles ne seront plus destinées à une réexportation vers l'étranger, mais pourront désormais donc entrer directement sur le territoire. Ça a une répercussion finalement sur la production nationale. Mais en termes de consommation, finalement, ça ne change pas grand-chose, parce que la contrebande a fait que les indiennes se sont immiscées dans les foyers déjà depuis longtemps. Elles étaient présentes dans les tissus d'ameublement. Donc, ça ne va pas être une grande découverte. Elles vont peut-être être plus nombreuses.
Plus visibles, au moins. C'est-à-dire à l'extérieur, en particulier dans la rue ou à la cour.
Alors, même pas, puisque, il suffit de regarder les procès-verbaux, donc de saisie de toiles peintes, qu'on peut observer dans différentes villes bretonnes, pour s'apercevoir que les femmes rennaises, malouines ou lorientaises, se promenaient dans les rues vêtues d'indiennes.
Alors que c'était interdit.
Bien sûr.
Oui, donc on bravait l'interdit et c'était déjà à la mode d'une certaine façon. Et ça n'est qu'une sorte de façon pour la loi de rattraper l'usage. C'est ce que vous voulez dire, Eugénie Margolin-Plot.
Complètement.
En tous les cas, ce que vous montrez, Eugénie Margolin-Plot, c'est qu'il y a une évidente consommation de ces indiens, de ces cotonnades, par les milieux populaires de l'Orient, justement dans les inventaires après décès. Ça montre bien qu'il y a une consommation différenciée de ces produits de luxe indiennes, cotonnades, puisque dans les inventaires, voilà, vous retrouvez ces objets de consommation qui sont nécessaires, enfin que vous ne trouvez pas de manière ponctuelle.
Alors, le cas de l'Orient est particulier puisque c'est le port de la compagnie, donc tous ces tissus se trouvent très facilement à la sortie du bateau. Il faut imaginer les matelots sortir en bourrure leurs marchandises, donc c'est-à-dire directement sous le manteau, et les revendre à la sauvette ou les revendre donc auprès de redistributeurs qui sont d'ailleurs très variés. Donc il est facile à l'Orient et je dirais dans toute la Bretagne de se procurer des toiles peintes comme des cotonnades blanches. Donc par contre, effectivement, pour un paysan du Limousin,
oui.
Voilà, pour lui, il faudra attendre la deuxième moitié, voire la fin du XVIIIe siècle, pour avoir accès à ces produits.
Ce qui montre l'hétérogénéité justement de la diffusion et de cette consommation en fait de produits exotiques.
Sur l'ensemble du territoire, effectivement, oui.
C'est d'ailleurs ce qui est très excitant, Philippe Mézier, quand on travaille, visiblement, c'est ce que, en vous lisant, on comprend, quand on travaille sur ces sujets-là, c'est qu'on embrasse à la fois le territoire national, mais il est toujours en lien avec des territoires lointains. On est obligé de travailler à la fois sur les représentations, mais également sur l'économie, sur les réseaux qui permettent justement le transfert de ces produits d'un endroit à l'autre. On travaille également sur les concurrences, comme on l'a dit tout à l'heure, entre pays pour la maîtrise du chemin qui permet à ces produits d'arriver jusque chez eux. Enfin, il y a effectivement, on a l'impression que c'est un monde que de travailler sur ces questions-là, Philippe Mézier.
Il faut en effet, me semble-t-il, essayer de tirer tous les fils lorsqu'on s'intéresse à la consommation de ce genre de produits. Si on prend la question, par exemple, de l'approvisionnement, on pense évidemment aux circuits commerciaux. Mais on peut aussi se procurer du sucre ou du café par bien d'autres moyens. Et je pense aux populations littorales de Bretagne, de Charente ou de Gironde qui profitaient notamment des navires échoués pour récupérer quelques tonneaux de sucre pour leur consommation. Donc on touche à la fois finalement au circuit du commerce, au mode d'approvisionnement, à la transformation des produits. Et puis ces produits exotiques, il faut aussi s'interroger sur la manière dont ils sont appropriés.
Eh oui.
C'est-à-dire que la façon
c'est
de les consommer.
C'est l'histoire du goût aussi.
Tout à fait. Si je prends l'exemple du chocolat, et Natacha Coquerie tout à l'heure parlait de réticence parfois face à ces produits exotiques, le chocolat donc des Aztèques est au départ considéré comme un produit beaucoup trop amer. L'amertume pose problème. Et donc on va y associer le sucre. Donc on le consomme pas du tout de la même manière chez les Aztèques, en Amérique et en Europe. Donc on voit qu'on a des formes d'adaptation, d'appropriation, et pour certains produits exotiques, ils perdent même peu à peu leur dimension exotique, parce qu'on pense souvent aux boissons exotiques, mais sont venus aussi d'Amérique d'autres produits, comme la dinde ou le maïs.
Et la pomme de terre.
Et là, on est dans d'autres mécanismes.
Et Natacha Coquerie, justement, sur ce caractère excitant, intéressant pour l'historien ou l'historienne d'embrasser cette question de la consommation dans cette période de profond bouleversement qui est la période du XVIIe, XVIIIe siècle.
Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que ça touche à l'histoire économique, bien sûr, mais aussi à l'histoire culturelle, à l'histoire sociale, voire l'histoire des techniques. Et donc c'est un objet qui permet vraiment d'aller jusqu'au bout de sa curiosité intellectuelle. Et je pense que là aussi c'est assez nouveau. Enfin, c'est peut-être ce que l'historiographie actuelle, avec les jeunes chercheurs là qui se sont exprimés aujourd'hui, et le montrent bien, c'est cette manière de ne pas considérer un objet historique comme fermé sur lui-même. Mais au contraire, et je parle aussi de l'histoire des représentations, hein. Bien sûr, histoire littéraire, histoire artistique, puisque vous avez aussi beaucoup d'historiens de l'art avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, et j'apprécie beaucoup les échanges que je peux avoir avec eux, qui s'intéressent aussi aux questions de la consommation. Donc c'est cela qui est intéressant, c'est de prendre cet objet-là à la croisée.
Partir du produit et voir comment il chemine, quoi.
Oui, d'un produit ou bien des hommes et des femmes qui consomment ce produit. Enfin, vous voyez, là, on fait de l'histoire sociale. Et on ne fait pas seulement de l'histoire d'un produit.
Maud Villeray, ça permet aussi des débats entre historiens de sphères géographiques différentes. On voit dans votre thèse, d'après ce que j'ai cru comprendre, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec les mêmes, disons, chronologies que des historiens ou des historiennes anglaises sur la pénétration du sucre dans le territoire britannique et dans le territoire français. Je crois qu'une historienne britannique considère qu'à la fin du XVIIIe siècle, on peut parler de consommation de masse pour le sucre en Angleterre. Et vous dites, moi, je ne considère pas sur l'espace géographique qui est le mien, l'espace ligérien autour de la Loire, entre, mettons, Orléans et Nantes, que ça soit véritablement le cas, même s'il y a une forte progression de la consommation de sucre dans cet espace-là au XVIIIe siècle, Maud Villeray.
Oui, tout à fait. Alors, je ne remets pas du tout en cause ces
résultats. Non, bien sûr, mais c'est des débats, c'est intéressant.
Tout à fait. Et la consommation a progressé de manière différenciée selon les États également. En Angleterre, le thé est très à la mode dès le début du XVIIIe siècle et est accompagné de sucre. L'engouement est moindre en France et la consommation de ce produit exotique est également bien moindre. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ma thèse. J'ai aussi voulu vraiment mettre l'accent sur la province parce que je pense qu'il y a eu un biais finalement dans l'étude de la diffusion de ces nouveaux produits exotiques en ne s'intéressant uniquement aux capitales, à Paris, à Londres.
Ou aux grands ports.
C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi intégrer les campagnes et puis les villes plus moyennes, les villes de l'intérieur, pour essayer d'avoir un tableau un petit peu plus proche de ce que pouvait être la réalité du 18e, tout en étant tout à fait humble aussi avec les résultats de cette enquête, puisque à partir du moment où on travaille avec des inventaires après décès, évidemment, on travaille avec un prisme déformant de la consommation.
Pourquoi est-ce un prisme déformant ?
Parce qu'on travaille sur des produits qui ont été consommés, on ne retrouve plus de sucre dans ces inventaires après décès, on retrouve des sucriers, des cuillères à café, mais en aucun cas on ne peut affirmer que ces foyers avaient une consommation régulière de ces nouveaux produits exotiques.
Mais tout de même, c'est extrêmement chatoyant. C'est un peu aussi, Natacha Cochry, de l'histoire culturelle. On sait que pour l'arrivée des musiques nouvelles au XXe siècle, les historiens de la culture travaillent maintenant sur une sorte de gradation, puisqu'évidemment, ça n'est pas la même chose que d'être à Paris et d'avoir découvert le jazz dans les années 20, ou d'être dans n'importe quelle autre ville de province et d'avoir découvert que dans les années 30, 40 ou 50, parfois. Et c'est la même chose pour cette histoire de la consommation, c'est-à-dire que si on fait une gradation sur un territoire, ça permettra de mieux comprendre les ruptures de consommation, les modes qui ne passent pas dans certains milieux et peut-être au moment où arrive effectivement la Révolution française, par exemple, les différences d'approche par rapport à certains types de consommation, certains modes de vie aussi, en l'occurrence, Natacha Cochry.
Un des apports de ce renouvellement historiographique qu'on appelle histoire globale ou histoire connectée ou histoire
mondiale,
des circulations, ou histoire mondiale, ce que vous voulez, c'est que l'historien adopte un point de vue situé, justement. Il est dans un lieu bien précis pour éviter les amalgames ou les grands récits généraux. Et donc, il y a cette alliance, finalement, de histoire connectée et micro-histoire.
Histoire, ouais.
Et c'est très intéressant d'un point de vue intellectuel, là encore, d'étudier cela.
Philippe Mézier, sur ce point, justement.
Je pense aussi que la question du territoire, finalement, est essentielle lorsqu'on étudie ces consommations. Il va y avoir la prise en compte nécessaire des voies de circulation naturelles, mais aussi la présence de tel ou tel groupe de population qui peut avoir une influence sur les consommations. Donc l'espace, le territoire, me semble être une voie d'entrée nécessaire pour bien comprendre ces gradations dans les consommations, ces différences locales.
Même s'il y a quand même parfois des discours plus généraux, enfin, je pense, ce qui concerne par exemple l'intervention étatique, on n'a pas du tout parlé du discours médical aussi sur ces produits qui a son importance, sur le chocolat, le café, le thé, qui au début sont considérés comme des boissons nocives, par exemple.
Philippe Mézier.
Le discours médical et le discours religieux aussi, les deux d'ailleurs se confondant parfois pour condamner ces boissons auxquelles on attribue souvent des vertus aphrodisiaques. Donc évidemment, l'Église catholique se mobilise au départ contre ces boissons. Donc il y a toute une étude des représentations, du discours autour de ces boissons qui peut accélérer leur diffusion, la freiner, avec des différences aussi entre les pays européens, protestants, catholiques, où il y a des influences à ce niveau-là.
Natacha Coquerie, sur ce point.
Oui, les philosophes sont intervenus et c'est la fameuse querelle du luxe qui a parcouru tous les 17e, 18e siècles. Et c'est très intéressant, là aussi, de voir derrière un discours moraliste ou philosophico, ce que vous voulez, les intérêts économiques, puisque Voltaire a défendu ardemment le luxe, mais oui, il était actionnaire de la Compagnie des Indes, donc il avait intérêt à ce que... Donc vous voyez, là encore, c'est intéressant de mélanger intérêts économiques et intérêts philosophiques, là, pour le coup, et de voir les enjeux qui sont sous cette querelle du luxe.
Merci à vous, donc Natacha Coquerie, merci à Philippe Mézier ainsi qu'à nos confrères de Bordeaux, de Radio France qui l'ont accueilli dans leur studio. Merci à Maud Villeray et Eugénie Marcoline-Plot, toutes les deux étaient avec nous depuis Nantes. Merci également donc à nos confrères de Nantes qui les ont accueillis. Et on peut, si on veut en connaître un peu plus sur ce sujet, par exemple se plonger dans un numéro d'Histoire Urbaine, je crois que vous l'aviez coordonné, Natacha Coquerie, avec d'autres, qui s'intitulait « Consommation ». Consommation et exotisme, 15e, 18e siècle. C'est un numéro, le numéro 30 d'avril 2011 de cette revue, donc excellente revue, Histoire urbaine. Maud Villeray, votre thèse, on pourra espérer la lire un jour, autrement qu'en thèse, mais peut-être en livre. Un petit mot là-dessus.
Oui, absolument, j'y travaille. Le projet de manuscrit vient juste d'être accepté. Du coup, voilà, au travail de nouveau.
C'est pour bientôt. Eugénie Margoline-Plot, même chose pour votre travail sur les pacotilles d'Indienne, la boutique et la mer.
Alors, de mon côté, la publication est un peu moins avancée, mais le projet est en cours, effectivement.
Et Philippe Mézier, si on veut vous lire, il faut aller dans les revues.
Ou dans des livres sur l'alimentation en Europe à l'époque moderne, ou ma thèse qui a été publiée il y a quelques années déjà sur la table du Sud-Ouest.
Merci à tous les quatre de nous avoir donné envie justement d'aller plus loin sur cette question de la consommation de produits exotiques au XVIIIe siècle. Merci à vous, Cyril Niatta. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Mona Bolivier et Aurélie Marseille et la réalisation était signée Anne Fleury. Si vous voulez écouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter puisque nous avons désormais une adresse Fabrique FC demain et nous terminons cette semaine avec une Fabrique mondiale de l'Histoire et le magazine L'Histoire dirigé par Valérie Hanin avec l'historien allemand Arne Benrich. Il nous parlera de Verdun et nous aurons également un entretien avec Farah Hached en ouverture de notre en prélude de notre semaine prochaine qui sera consacrée à l'histoire de la Tunisie.